Chapitre 12. La lumière après l'ombre. La première journée de recherche se termina sur un blanc complet. On avait suivi deux pistes qui, l'une et l'autre, avaient abouti dans le vide. C'est qu'on avait commencé trop tard. Matignon était sorti de l'usine quand Mademoiselle Renée, timidement, entra dans le pavillon du concierge et feignit d'avoir entendu dire que Madame Pipelet avait besoin d'une lingère la journée. Étant sans travail pour l'instant, elle venait s'offrir. Une lingère à la journée était, à Paris, un trésor si rare que la femme du concierge, maman de 5 petits gosses, s'empara de l'occasion immédiatement et installa Mademoiselle Renée devant une grande corbeille de linge à trier. De son coin de fenêtre, la jeune fille surveilla la sortie des ouvriers à 6 heures. C'était l'équipe de jour. Matignon n'y était pas. « Monsieur Matignon est déjà parti ?» se hasarda-t-elle à dire. « Oh, lui, il n'a pas d'heure. Il va et vient. Il active le matériel brut. »« Tiens, » pensa Madame Pipelet, « la petite en tiendrait-elle pour le contremaître ? Ça m'étonnerait. Il n'est guère beau, le malheureux. » René finit d'arranger une pile de petites chemises, dit qu'elle viendrait le lendemain et s'en alla très désappointée. Courtois, qu'elle avait conduit dans la matinée chez le lieutenant Franchet, rue d'Hauteville, avait cherché une autre piste, celle du taxi de l'enlèvement. Après une scène assez vive avec le directeur de l'école Saint-Amé, il avait obtenu, grâce surtout à l'appui du lieutenant, ses entrées et sorties libres pour quelques jours et une dispense de l'atelier. Le lieutenant avait prononcé d'un ton discret « Affaire grave, monsieur le directeur !» Intérêt de la défense nationale. Le témoignage de Courtois est indispensable. Non, monsieur le directeur, je n'ai aucune pièce officielle à vous montrer. Ces affaires-là, vous le comprenez, ce n'est pas un rally paper, on se garde de semer des paperasses sur la piste. Ainsi, Courtois fut autorisé à sortir le matin avec le lieutenant et à rentrer chaque soir avant 9 heures en tout cas. 10-20 visites ce jour-là et le lendemain, chez des loueurs de taxi, n'amenèrent aucun résultat. Que pouvait-on en attendre d'ailleurs ? Il faut compter beaucoup sur le hasard, mon lieutenant, dit Courtois. Vous regardez bien avec vos yeux, moi j'écoute avec mes oreilles. Il suffira peut-être d'un mot, d'une rencontre. En attendant, M. Gavenard, balancé parmi l'atermoiement, avait pourtant lancé une dépêche en Suisse. Les dépêches, dans cette période-là, étaient retenues 3 ou 4 jours à la frontière. Roya malade, arrivé. Il fallait que le texte de la dépêche ne contînt aucun mot qui pût sembler suspect à la censure. On pouvait dire malade, il eût été dangereux de dire disparition ou mystère. Mademoiselle Renée, pendant 4 jours, ne cessa de suivre Matignon dans ses allées et venues, trouvant des prétextes pour quitter son travail, mais n'aboutissant jamais qu'à une gare, à un entrepôt où le contremaître avait légitimement affaire. Le soir, Matignon dînait dans une petite crèmerie, puis il rentrait chez lui, boulevard Bessières, dans un garni où il avait sa chambre, et il n'en sortait plus. C'était le lieutenant qui prenait la faction à 9 heures quand il avait reconduit Courtois à son cantonnement. On pouvait observer la porte de l'immeuble, d'un banc, commodément situé sous les arbres du boulevard, en face. Pour le lieutenant, avec sa jambe blessée et mal raffermie, ce banc était précieux. Le 5e soir de sa faction, qu'il prolongeait ordinairement jusque vers minuit, il vit, peu de minutes après 10 heures, Matignon sortir de la porte cochère, regarder autour de lui, aviser un fiacre qui rôdait, l'attendre sous la clarté d'un bec de gaz. Le lieutenant n'avait vu Matignon qu'une fois, sur le quai de la gare, où le contremaître attendait Roya, mais on ne pouvait se méprendre à sa cicatrice. Son plan fut tracé instantanément. Il traversa la chaussée aussi vite qu'il put et aborda le fiacre à gauche dans la seconde où Matignon allait mettre son pied sur le marchepied de droite. Le cocher, un peu endormi, regarda ses deux clients d'un air incertain. « Ma foi, dit-il, je crois que l'officier est arrivé bon premier. Et puis, le militaire passe avant le civil de ce temps-ci. Mais tout de même, fit-il, réfléchissant que deux clients valent mieux qu'un, si mon lieutenant n'y voit pas d'inconvénient, je pourrais charger aussi le civil, si qui aurait moyen, rapport où ce que vous allez tous deux. Rue d'Hauteville, dit brièvement le lieutenant Franchet, s'installant à gauche pour indiquer que l'autre n'avait qu'à monter à droite. Il y avait peu d'apparence que Matignon le reconnut. « Moi, rue Paradis, » fit le civil après une seconde d'hésitation. « Autant dire la même adresse, » s'exclama le cocher. « Ça colle, mon lieutenant. » Celui-ci ne répondit que d'un signe de tête. Ah, Courtois avait raison, il fallait toujours compter sur le hasard ou sur la providence. La rue Paradis coupe la rue d'Hauteville, Matignon descendrait le premier. Mais qu'allait-il faire après 10 heures dans ce quartier commerçant, dans cette rue des magasins en gros, de faïences et porcelaines? Le cocher piqua du fouet son cheval, une bête de race, qui revenait fourbue du front et qui ne trouvait que peu d'avantages à être démobilisée. Le lieutenant alluma une cigarette, se retint d'offrir par habitude l'étui d'argent à son voisin et ne prononça pas une parole durant le trajet. « Paradis, quel numéro ?» demanda le cocher quand on fut dans la rue du Faubourg Poissonnière. « Je descendrai au coin de la rue, je n'aurai plus que 2 pas, » dit Matignon. Dès qu'il fut sur le trottoir et qu'il eut payé sa course, le lieutenant se pencha vers le cocher. « Suivez au pas, » fit-il à demi-voix. « 10 francs pour vous, si je vois dans quel immeuble ce particulier va entrer. » Le cocher retint aussitôt son cheval, tout en jurant très haut contre cette rosse qui ne voulait pas repartir. Matignon n'alla pas très loin. Il s'arrêta devant la haute porte d'une cour. Il s'arrêta devant la haute porte d'une cour qui ne semblait pas appartenir à une maison locative. Aucune lumière ne brillait sur la façade du fond. Matignon tira 3 fois la sonnette de l'entrée. 3 tintements distincts résonnèrent dans l'intérieur. Le premier lent, espacé des 2 autres, rapides et brefs. Parfaitement, un signal, pensa le lieutenant qui nota ce détail dans sa mémoire. Le cordon fut tiré, sans doute, car la porte s'entrebâilla, Matignon disparut. 5 minutes plus tard, le lieutenant Franchet était chez lui, rue d'Hauteville, et il rêvait au meilleur parti à tirer de l'indication enfin obtenue. Dès la première heure, le lendemain, il rejoignait Courtois, puis Mademoiselle Renée. Un plan fut concerté, Renée devait partir en éclaireuse, se renseigner dans la rue Paradis, rejoindre ses associés à midi dans un bouillon tout proche de la porte Saint-Martin. Quand ils furent assis tous les 3 à leur petite table et qu'elle eut pris de Courtois les soins accoutumés, lui dépliant sa serviette, lui plaçant son verre, sa fourchette, lui coupant sa viande, elle dit que l'immeuble en question n'était pas habité, sauf par le concierge dans la loge de la cour. Les étages servaient à un important entrepôt de faïence. 2 employés arrivaient chaque matin. Un chauffeur conduisait le camion au gare, mais dans un coin de la cour, elle avait vu un coupé automobile qui pouvait passer pour un taxi. Après avoir sonné, elle avait dit à l'homme renfrogné qui lui ouvrit qu'elle venait de la part de ses maîtres à la campagne s'informer du prix d'un service de Sarreguemines. L'homme avait répondu qu'ici on ne vendait qu'en gros et il l'avait refoulé très brusquement sur le seuil, mais elle avait eu le temps de jeter un coup d'œil. Au fond de la cour, il y avait un perron et par la porte grande ouverte, elle avait vu un bel escalier. Dans une boutique un peu plus loin, on lui avait dit que cette maison de faïence était alsacienne, Binrobert ou à peu près. Naturellement, fit Courtois, tous les Allemands s'intitulent alsaciens à Paris. Il semble que notre programme est d'une simplicité enfantine, fit le lieutenant, sauf sur un point. Vous et moi, mon bon Courtois, ce n'est pas tout à fait assez pour l'assaut. Nous serons la première vague, entendu, mais il nous faudrait une vague de soutien. Jamais on n'avait tant sonné chez Madame Amande. Sa petite maison était le grand quartier général, le rendez-vous des affiliés et le centre des nouvelles. Ce matin-là, vers 9 heures, grand coup de sonnette. Elle n'avait pas posé son balai qu'on sonnait de nouveau. « Ah, si c'était mes 2 petits qui seraient délivrés » soupira-t-elle. Sur la porte, un monsieur inconnu, valise à la main, une très jolie jeune fille en costume de voyage. Comment va-t-il ? S'écria la jeune fille, entrant la première et saisissant le bras de Madame Amande dans ses deux mains gantées. Il va mieux, dites qu'il va mieux. Je veux le voir tout de suite, vous entendez ? Tout de suite. Lucette, fit le monsieur, tu as promis à ta mère d'être pondérée. Pondérée ? Quand Pierre est peut-être mourant ? Madame, vous voulez bien, n'est-ce pas, que je le voie ? Je vous en supplie, ça lui fera du bien de me voir. Si c'est monsieur Pierre Royat que vous demandez, il n'est pas ici, prononça madame Amande avec circonspection. Pas ici, répéta monsieur Martin, à l'hôpital ? Non, pas à l'hôpital non plus, je ne sais pas trop qui vous a renseigné. Ma fille est la fiancée de Pierre Royat, je suis monsieur Martin, l'associé de monsieur Gavenard. Nous arrivons de Suisse, appelés par une dépêche qui nous prévient que Pierre est malade. La dépêche n'a pas eu trop de retard. Nous avons obtenu des passeports d'urgence, et nous voici, ayant voyagé toute la nuit. Entrez donc, mademoiselle et monsieur, je ne saurais faire mieux que de vous recevoir dans la chambre de monsieur Pierre. Par ici, asseyez-vous, je vous ferai une tasse de café. Mais j'ai le regret de vous dire que monsieur Pierre et son cousin ont disparu. Monsieur Gavenard n'aura pas voulu dire la chose par télégramme. C'est pourquoi il aura mis « malade ». Il fallut plus d'une heure à madame Amande, tout en faisant et en servant le café, pour exposer dans ses détails l'histoire de la disparition mystérieuse. Lucette et son père étaient atterrés. Mais monsieur Martin, homme d'action, ne pouvait être longtemps sans prendre parti. « Je vais causer avec Gavenard, » dit-il en se levant. « Toi, ma fille, reste ici et repose-toi. »« Si vous voulez m'excuser, » fit madame Amande, « je vous conseillerais plutôt de téléphoner au lieutenant Franchet pour savoir à quoi il en est. Il a peut-être du nouveau, que sait-on ? J'ai son numéro. Chez mon épicier, à deux pas, vous trouverez le téléphone. » Monsieur Martin revint au bout de 10 minutes. Le lieutenant n'était pas chez lui. Il devait rentrer à 2 heures. « Mais je vais mourir d'impatience, moi, d'ici à 2 heures !» s'écria Lucette. « Pas du tout. Tu ne mourras pas. Tu dormiras. Tu feras ta toilette. Nous irons déjeuner boulevard Bonne Nouvelle ou dans ces parages. Nous serons rue d'Hauteville à 2 heures. Une conversation vaudra mieux que le téléphone. Moi, je vais de ce pas à l'usine. » « Votre excellent café m'a tout à fait ragaillardie, madame Amande. » Le concierge de l'usine Gavenard connaissait naturellement M. Martin, principal associé et même plus propriétaire de l'usine que M. Gavenard, assurait-on dans les ateliers. Matignon, lui, n'avait jamais vu ce second patron, mais il fut renseigné par le concierge qui aimait à tailler des bavettes avec le contremaître. « Monsieur Martin va être contrarié de ne pas trouver son futur gendre. Si qu'on écouterait tout ce qui se dit, Monsieur Royat serait allé en Bourgogne avec un ami qui a eu un accident. » Matignon, qui avait lui-même répandu ce bruit parmi les ouvriers surpris de ne plus voir Pierre, se contenta de hocher la tête. « À propos, Monsieur Matignon, ma femme me dit que votre amoureuse ne s'est pas amenée ce matin. » « Mon amoureuse ?» répéta Matignon, interloqué. « La petite lingère qu'est après vous ? Ah, elle vous surveille, la petite coquine. Tenez-vous bien, c'est un conseil. Elle devait venir aujourd'hui. Vous savez son nom ? Ma foi, je n'ai pas pensé à m'informer. Ma femme doit le savoir. Quand cette lingère sera là, passez-moi un mot. » Matignon s'en alla, le sourcil froncé, marmottant et ronchonnant des mots inintelligibles. M. Martin avait été appelé, cela semblait évident. Des yeux épiés, Matignon le suivait peut-être dans ses allées et venues. Il avait beau chercher, avec toutes les ressources de ses connaissances en mécanique, le secret de l'ajustement du dispositif Royat, il n'y arrivait pas, et Pierre s'obstinait. Les visites de Matignon, ses menaces la veille encore, n'avaient pas même obtenu une réponse. Il fallait en finir. À l'emprisonnement, il fallait ajouter une petite torture. La faim, la soif peut-être, suffirait. Déjà, le geôlier des deux prisonniers, le concierge de l'entrepôt Birn Robert, avait reçu l'ordre de ne monter ni pain ni eau de tout le jour. Le soir, avec le docteur, on verrait à employer les grands moyens. Et puis, dès qu'on aurait obtenu le secret, il faudrait filer. Tout était prêt, l'avion camouflé, le pilote, un bon terrain de départ, l'auto pour s'y rendre en 20 minutes. Demain matin, on pourrait être descendu en Allemagne. Ah, ma foi, ça ne serait pas trop tôt. Ça commençait à brûler autour de la combine. À 2 heures, rue d'Hauteville, M. Martin et Lucette trouvèrent le lieutenant qui venait de rentrer chez lui avec Courtois et la gentille Renée. Dès qu'on se fut présentés les uns aux autres, il se trouva que, par les lettres de Pierre à Lucette, on se connaissait déjà. « Ah, nous le sauverons, n'est-ce pas ? » s'écria Lucette en larmes, se jetant au cou de Renée. « Mais certainement, mademoiselle, et pas plus tard que ce soir, » affirma le lieutenant. « Vous demandiez une vague de soutien, mon lieutenant. La voilà !» s'exclama Courtois. On exposa à M. Martin le plan qui venait d'être concerté. « Il est à peu près certain, dit le lieutenant, que nous tenons un bout du fil. Même si nos amis ne sont pas prisonniers dans cet immeuble de la rue Paradis, nous apprendrons quelque chose en prenant le fortin. Prendre un fortin, ça vous connaît, Courtois, » ajouta-t-il cordialement, se tournant vers son camarade aveugle. « Mon Dieu, oui, mon lieutenant, vous aussi, ça vous connaît. On vous suivra, n'ayez pas peur. Pour ce qui est de cogner, je cognerai comme un aveugle, vous n'aurez qu'à dire « à droite, à gauche ». C'est égal, M. Martin ne sera pas de trop. « Je l'espère, » fit l'industriel en se redressant, « et je serai même un peu là, comme vous dites. » « Je connais le signal de la sonnette, un long, deux courts, » reprit le lieutenant. « Ça rendra l'entrée facile. Un bon coup droit sous le menton du concierge, ça l'étendra pendant 10 minutes. Je m'en charge. Monsieur Martin et Courtois monteront l'escalier à la 4e vitesse, moi, un peu plus lentement, à cause de ma jambe amochée. Nous appellerons Royat à pleine gorge, comme si nous étions 1000. Il répondra, et nous saurons où le trouver s'il est dans l'immeuble. » « Je ne sais trop s'il conviendra de faire du bruit. Peut-être le silence nous aiderait-il mieux. Cela se peut, nous verrons cela au moment de l'assaut. »« On gueule toujours pour l'assaut, » fit observer Courtois. « Pas quand il s'agit de surprendre l'ennemi. »« Quoi qu'il en soit, mesdemoiselles, » reprit le lieutenant, « nous espérons bien vous apporter ici de bonnes nouvelles avant 00h. »« Ici, mais nous serons avec vous, » s'exclama Lucette. « ma fille !» prononça son père d'une voix peinée. « Tu oublies déjà ce que ta mère t'a dit au départ. »« Maman m'a dit, sois pondérée. Je le suis, papa. Je suis parfaitement calme, tu vois. Je dis seulement que nous serons avec vous dans cette horrible maison. Comment, papa, peux-tu imaginer que je resterai dans ce salon pendant que vous allez délivrer Pierre ? Je voudrais même partir tout de suite. Je me demande ce qu'on attend. » On est ici à causer. Nous avons plus de chances de réussir notre coup quand il fera nuit, dit le lieutenant très doucement à cette fillette déraisonnable. Donc, c'est entendu, reprit M. Martin sévèrement. Tu resteras ici avec Mlle Renée et vous attendrez les événements. Lucette échangea un regard avec Renée, puis baissa les yeux, soumise, silencieuse, comme il convient à une naïve enfant de l'Helvétie. Oh, que le temps fut long jusqu'à 9 heures! Cependant, on toucha à beaucoup de sujets intéressants, l'invention de Pierre et ce qu'on savait du complot de Matignon pour s'en emparer. On parla du Palais d'Or et des chansons de Courtois. On répondit à toutes les questions de M. Martin, qui désirait connaître les fils nombreux de cette toile d'araignée. Lucette avait les yeux sur la pendule. À 7 heures, on dîna un peu sur le pouce, car le lieutenant était logé en garçon. Enfin, à 8h30, on s'ébranla. La distance n'était guère que de 3 minutes, le renfort souvent encombrant d'un taxi n'offrait aucune utilité. Les 3 hommes prirent le trottoir, Courtois au bras du lieutenant, M. Martin fermant la marche et tâtant parfois du coude le bon petit revolver automatique bien serré dans la poche de son pantalon. Derrière ce premier contingent, un second, fait de 2 ombres minces et furtives, emboîtait le pas sans aucun bruit. À la porte de l'immeuble Birnrobert, le lieutenant Franchet s'arrêta. Le grand moment était venu. 3 coups de sonnette allaient déclencher la défaite de Matignon. ou sa victoire. Bing, tin tin. 5 secondes après, la porte cochère roula sur ses gonds. Quelques pas en avant, sans rien dire, jusqu'à la loge éclairée. « Monsieur le lieutenant, passez-moi Monsieur Courtois, vous serez plus libre pour votre coup de poing, » fit une voix très douce près de son coude. Et René, qui avait franchi avec Lucette la porte cochère, prit le bras de Courtois, se dirigea avec lui vers le perron, tandis que Lucette exécutait la même manœuvre auprès de son père. « Sois tranquille, papa, je serai pondéré, » chuchota-t-elle à son oreille. Monsieur Martin, absolument suffoqué, fixa un œil presque hagard sur cette scandaleuse petite rebelle. Mais il ne put proférer un son, car déjà le programme suivait son cours. Le concierge, surpris, mais cependant rassuré, par la vue de 2 silhouettes féminines traversant la cour sans hésiter, s'avança lourdement pour demander des explications. Il en reçut aussitôt de suffisantes sous la forme de ce fameux coup de poing sur la pointe du menton qui se répercute dans toute la tête et qui paralyse le cerveau pour un bon moment. Le lieutenant le laissa, gisant de tout son long sur les dalles, et se hâta, en boitant, de suivre le gros des troupes dans l'escalier. À chaque étage, le gaz était allumé, mais personne ne se montrait. Un silence absolu régnait au premier, au second. Subitement, Courtois s'arrêta, retenant Mademoiselle Renée. « Des voix » chuchota-t-il. Les autres écoutèrent, n'entendirent rien. « Ça venait peut-être de la rue, » fit Courtois. « Montons plus haut. » Au troisième, au quatrième, le même vide, le même silence, mais toujours le gaz allumé, qui prouvait tout de même qu'on venait de passer par là, ou bien que l'on comptait y passer bientôt. Nos 5 explorateurs s'arrêtèrent pour se concerter à voix basse. Devant eux, au fond du couloir, il n'y avait plus qu'un escalier de galetas, très raide et sans rampe, une sorte d'échelle à large marche qui aboutissait à un palier. Et cette fois, il n'y avait plus à s'y méprendre, on entendit des voix au-delà de ce palier. Une voix irritée et rude, celle de Matignon, une autre qui lui succéda, insinuante et lente. Puis un mot bref, éclatant, « Non, 1000 fois non !» Et un cri, la supplication d'un enfant, « Laissez-le ! Laissez-le !» En 2 bonds, M. Martin fut au haut de l'échelle, sur le palier, derrière une porte où la clé sortait d'une grosse serrure. Mais il y avait un verrou mis à l'intérieur, car la porte résista à sa brusque poussée d'épaule. « Ouvrez ! » cria-t-il. « Au secours ! Au secours !» appelait Rick avec une telle intonation d'épouvante que M. Martin n'hésita plus à sortir son revolver. « Si on n'ouvre pas, je tire à travers la porte !»« C'est nous, Roya, nous sommes en force !» hurla Courtois tout en bourrant la porte de coups de poing. Un grand silence se fit à l'intérieur. « Ouvrez ou je tire !» répéta M. Martin, qui tenait son revolver très haut et obliquement, de façon à n'atteindre que le plafond de la pièce invisible. La porte ne bougea pas. Une détonation retentit, puis une autre et une troisième, faisant résonner tous les échos de la maison vide. Alors, il arriva une chose à laquelle la petite troupe ne s'attendait pas. La porte s'ouvrit subitement à l'extérieur, frappa M. Martin si rudement à la tête qu'il vit 1000 chandelles et qu'il tomba comme assommé, refoula le lieutenant et Courtois l'un sur l'autre, et 2 espèces de bolides passèrent entre les 2 jeunes filles, dégringolèrent l'échelle, puis tous les étages jusque dans la cour. Comment les poursuivre? Le seul homme valide étant par terre, un aveugle et un boiteux n'avaient assurément aucune chance d'atteindre les fuyards. Lucette s'était agenouillée auprès de son père, elle lui soulevait la tête, lui frottait les mains. Il ne fut d'ailleurs pas très long à reprendre ses sens. Il se dressa, encore un peu chancelant. Courtois jurait Mademoiselle Renée de lui expliquer ce qui se passait. Le lieutenant franchit le seuil du galetas. Ce grand espace n'était éclairé que par le gaz du palier et par une vague lueur qui flottait sous le verre épais du plafond. Rick était attaché sur un des lits de camp et Pierre sur l'autre. C'est ce qu'ils virent d'abord quand ils entrèrent tous les 5 pêle-mêle. Rick se mit à pousser des cris où l'on distinguait l'énervement, la terreur, la faiblesse. « Coupez-lui ses cordes, vite, ils lui ont fait du mal, ces démons. De l'eau, de l'eau !» Déjà René était près de lui et Lucette près de Pierre. Courtois ouvrait son couteau, cherchait les cordes en tâtonnant. Les poignets de Pierre étaient ligaturés par une grosse ficelle horriblement serrée qui, déjà, disparaissait à moitié dans un bourrelet d'enflure livide. Tout à coup, le gaz s'éteignit sur le palier. Une épaisse obscurité les enveloppa. « Ces cochons !» cria le lieutenant hors de lui. « Ils ont fermé le compteur à gaz en quittant la maison. »« Ça, c'est pas ordinaire, » fit Courtois. « Tous aveugles, alors. C'est basse. Eh bien, faites comme moi, je coupe les cordes au jugé. Ça va déjà mieux, hein, mon vieux ?» Par bonheur, le lieutenant avait sur lui une petite lampe électrique qu'il posa sur le plancher, puis, ses regards étant tombés sur le coin où gisait Pierre, il les détourna vite par discrétion. Car Lucette avait passé ses deux bras autour du cou de Pierre, et elle pressait contre son épaule cette chère tête, elle lui mettait des baisers sur les yeux. « Lucette ? Non, ce serait trop beau !» murmurait Pierre un peu égaré.